est-ce qu'il s'orientait aujourd'hui? Et ça en partant d'une question. C'est que aujourd'hui, les processus d'intégration, c'est-à-dire les efforts pour unir les pays de la région, semblent rassembler des soutiens assez divers et de façon un peu étonnante. À gauche, la question de l'Union a toujours suscité l'enthousiasme. Et lorsque vous lisez des articles de réflexion théorique, de réflexion politique sur la gauche et ses perspectives en Amérique latine, systématiquement, l'intégration régionale arrive. Alors, ou bien pour suggérer quelle est l'incarnation, la manifestation des succès enregistrés jusqu'à maintenant, et en même temps, l'intégration ouvrait des perspectives pour poursuivre cette révolution latino-américaine. Et lorsque des gens évoquent le socialisme du 21e siècle, eh bien, assez systématiquement, arrive la question de l'intégration. Et on comprend assez bien pourquoi. En Amérique latine, tout au cours du siècle dernier, tous les processus, disons, progressistes se sont heurtés, à un moment ou à un autre, au mécontentement de Washington. Mécontentement que les États-Unis manifestent de manière plus ou moins directe et de manière plus ou moins violente. Au début des années 70, au sujet du Chili d'Allende, Henry Kissinger avait estimé, je le cite, « Je ne vois pas pourquoi nous devrions laisser un pays devenir marxiste simplement parce que sa population est irresponsable. » Et le 11 septembre prochain, on va commémorer le 40e anniversaire du coup d'État qui a renversé Salvador Allende. Donc dans ces conditions, c'est assez logique, s'unir permet de s'émanciper un peu de la tutelle des États-Unis et de s'affronter au second obstacle que décrit l'un de mes interlocuteurs que j'ai rencontré là-bas. Lorsque vous en avez fini, ou lorsque la situation est moins grave, moins tendue avec l'impérialisme, eh bien vous pouvez vous attaquer à la bourgeoisie. Et c'est là que les choses deviennent un peu plus surprenantes, parce que des dirigeants politiques plutôt proches des classes dominantes en Amérique latine soutiennent eux aussi le processus d'intégration, que l'on songe aux grands bourgeois Juan Manuel Santos, le président colombien, ou bien au grand patron Sébastien Piñera, président chilien. Et à côté d'eux, vous avez des organisations patronales, colombiennes, chiliennes, brésiliennes, qui manifestent leur analyse selon laquelle l'intégration est une priorité.
Donc, eux pour les questions politiques ou des questions d'intérêt économique?
J'y viens. Parce qu'effectivement, lorsqu'on parle d'intégration, on ne parle pas nécessairement de la même chose. C'est un petit peu comme la démocratie. Tout le monde est pour, mais on n'entend pas nécessairement la même chose. Pour certains, promouvoir la démocratie justifie de simuler l'esprit électoral, l'esprit civique des citoyens en les ensevelissant sous un tapis de bombe. Pour d'autres, c'est un peu plus compliqué. Mais avant de venir à ça, je voudrais simplement rappeler que peut-être une chose qu'on n'a pas toujours à l'esprit, mais c'est que l'intégration pour l'Amérique latine, c'est un peu une évidence. Il y a un paradoxe à observer des sociétés aussi morcelées, un archipel de sociétés qui se sont toutes construites autour d'un rapport privilégié avec une puissance coloniale, que ce soit l'Espagne, que ce soit le Portugal, ou plus tard les États-Unis ou le Royaume-Uni. D'ailleurs, on cite un papier des années 60 dans Le Monde diplomatique dans lequel une journaliste explique que dans les années 30, un Mexicain se sentait beaucoup plus proche de Paris que de Caracas. Donc, des pays très éloignés les uns des autres et en même temps des pays très proches sur le plan géographique et sur le plan linguistique aussi. Il faut songer qu'en Amérique latine, si l'on met de côté quelques exceptions comme la Guyane française ou Belize, la plupart des pays n'utilisent qu'une seule langue, voire deux, l'espagnol et le portugais. En Europe, on a une vingtaine de langues. Rien qu'en Inde, il y en a une vingtaine aussi. 11 en Afrique du Sud. Donc, on voit bien pourquoi on pourrait souhaiter unir des pays aussi proches. Et comme vous le suggériez, évidemment, la question qui se pose, c'est qu'entend-on par intégration? Et aux côtés du projet à vocation socialiste qu'a souvent en tête la gauche lorsqu'elle évoque l'intégration régionale, Hugo Chavez, que j'ai cité tout à l'heure, autour de ce projet d'alternative bolivarienne, exactement, eh bien on trouve d'autres conceptions. Et un projet néolibéral qui plonge ses racines dans un vieux souhait de créer un marché unique qui irait de l'Alaska à la Terre de Feu, qui s'appelait la zone de libre-échange des Amériques, ALCA pour l'acronyme en espagnol. Alors le projet a été enterré en 2005 à cause d'une mobilisation de différents États latino-américains et des mouvements sociaux, mais il n'est pas totalement mort. Vous avez des pays comme la Colombie, le Chili, qui ont tous signé des accords bilatéraux avec les États-Unis et qui continuent à promouvoir une conception libre-échangiste de cette intégration. D'ailleurs, ils se sont récemment rassemblés à Santiago du Chili. Ils se sont organisés dans le cadre d'une alliance pour le Pacifique, dont les échos résumaient récemment la feuille de route en ces termes « Libre-échangiste de tous les pays, unissez-vous ». Alors, ils ont les États-Unis de leur côté et ils ont aussi des forces sociales assez importantes. Au Brésil, où je me suis rendu, eh bien, toutes les églises évangélistes soutiennent ce type de projet. Il faut savoir qu'au Brésil, ça représente environ 30% de l'électorat, des gens qui vont voter pour des candidats de leur chapelle, indépendamment de leur nom. Et il existe un troisième projet qui bénéficie du soutien de l'État brésilien. un projet d'indépendance.